Décryptage, Sébastien Farcy.
Vendre son corps pour s'en sortir, voici ce que doivent faire plus de 40 000 femmes aujourd'hui en France. La prostitution continue à être une affaire de grande violence et plus grave encore, environ la moitié de ces femmes ont moins de 18 ans. 20 000 enfants au moins donc se prostituent dans l'Hexagone et ce chiffre déjà effarant est en très forte croissance. Le nombre de mineurs prostitués a doublé en 3 ans selon les chiffres de l'Observatoire national des violences faites aux femmes, publié il y a quelques jours. Certaines de ces filles ont à peine 12 ans. Précarité sociale, familiale, influence des réseaux sociaux, lien avec la criminalité organisée. Comment expliquer cette descente aux enfers de tant de jeunes filles? C'est ce que nous allons essayer de comprendre ce soir dans Décryptage. Et pour en parler avec moi, deux invités ce soir, Nadège Hubert, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste et vous suivez ce sujet depuis plus de 8 ans. Vous publiez ces jours-ci une enquête poignante, un livre écrit avec Claude Hardid intitulé « À cœur perdu » aux éditions Mareuil. Également en ligne ce soir avec moi, Ernestine René, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes qui dépend du Conseil général de Seine-Saint-Denis. Et pour commencer, je vous propose à toutes les deux d'écouter le témoignage de Nina. Elle a 15 ans quand elle fugue et à partir de là commence tout un engrenage.
Il y a ce fameux moment où je suis tombée dans la prostitution. Je dormais plus chez moi parce que j'avais plus envie de rentrer chez moi. C'était conflictuel avec mes parents et je suis allée chez une de mes amies. Et j'ai passé la nuit là-bas, et elle fumait des joints. Et donc on a fumé ensemble ce soir-là. Et j'ai envoyé un message au dealer qui me livrait. Et je lui ai dit, écoute, je suis partie de chez moi, est-ce que t'as quelque chose pour que je fasse de l'argent? J'ai besoin d'argent pour pouvoir partir, et je me voyais partir très très loin. J'avais 15 ans. Il m'a dit, écoute, à part faire la tapin, je vois pas ce que tu peux faire d'autre. Je suis restée devant le message, et je me suis posé la question, je me suis dit, et pourquoi pas? Cet argent en espèces dans mes mains, à cet âge-là aussi jeune, m'a fait perdre toute notion de l'argent. À partir du moment où j'ai côtoyé l'argent sale, je suis rentrée dans un cercle vicieux qui était à mes yeux un cercle vertueux.
Nadège Hubert, on entend ce témoignage poignant de Nina, le lien aussi direct entre la rupture avec sa famille, son besoin d'argent et ensuite tout cet engrenage vers la prostitution. Est-ce une histoire récurrente, un profil que vous avez croisé lors de votre enquête journalistique, Madame Hubert?
Oui, malheureusement, c'est un profil qu'on retrouve assez souvent. On remarque que pour une grande majorité des cas, il y a une rupture familiale, des violences intrafamiliales qui amènent cette rupture, des violences sexuelles, de l'inceste, qui amènent à ces jeunes filles justement à trouver une autre façon de se sortir de cette situation difficile qui n'a pas été repérée aussi par les professionnels parfois. Donc oui, effectivement, ce sont déjà des jeunes filles fragiles, en situation de grande précarité, et elles vont tomber sur un autre, parfois qui a juste leur âge, ou alors un jeune majeur, un proxénète, qui va leur proposer de les aider, de les conseiller, de leur apporter une sorte de protection. Mais finalement, lui, tout ce qu'il voit, c'est une proie, une façon, un moyen rapide de se faire de l'argent. Et en plus, c'est quelque chose qu'elle dit, qu'elle prononce et qui est assez qui interpelle. Elle parle d'argent sale. Donc on voit bien que c'est pas un moyen de gagner de l'argent pour investir dans un avenir, que c'est vraiment quelque chose où déjà elle-même, elle a compris que ce qu'elle allait faire, ça allait encore plus l'anesthésier, la fragiliser et faire d'elle une victime de plus.
En effet, oui. Ernestine, René, vous travaillez, donc vous avez un observatoire que vous avez fondé, qui fait un travail assez transversal en Seine-Saint-Denis pour permettre le lien entre les victimes, les structures d'accueil et la justice, entre autres. Alors d'abord, une question, on a entendu donc les chiffres qui viennent sortir, plus de 20 000 personnes estimées mineures qui se prostituent, une augmentation phénoménale. Est-ce que ces chiffres vous étonnent? Est-ce que vous voyez cela arriver sur votre terrain en Seine-Saint-Denis?
Peut-être pas dans cette proportion, mais on voit effectivement arriver le fait que la prostitution des mineurs est en augmentation. Alors moi, quand je dis mineurs, je pense enfants. Et je trouve très important de bien redire qu'il s'agit d'enfants Elle nous a dit 15 ans, Nina. Dans l'étude que nous avons faite en Seine-Saint-Denis, elles avaient entre 11 et 17 ans. Mais elles avaient 11, 12, 13 ans. Vraiment des enfants d'âge de collège. Et il faut l'avoir dans la tête. La deuxième chose quand même, c'est que, par rapport à ce que dit toujours Nina, c'est que les proxénètes, même si c'est des jeunes, repèrent la vulnérabilité des enfants. C'est eux qui vont repérer les victimes, parce que cet enfant, eh ben, elle dit qu'il y avait un problème à la maison, donc de violence, assez clairement dit par Nina. On sait, dans l'étude que nous avons faite en Seine-Saint-Denis sur les dossiers donc d'aide sociale à l'enfance, les enfants avaient été tous victimes, soit de violences sexuelles, 7 sur 10 avaient subi avant leur entrée dans la prostitution de violences sexuelles, et quand elles étaient victimes de violences sexuelles, il s'agissait pour 8 sur 10 de viols ou tentatives de viol, et pas une fois, plusieurs fois. Et puis, la moitié avait subi des violences conjugales. Donc, on était quand même avec des enfants très fragilisés, qui avaient perdu l'estime d'elles-mêmes, la confiance en elles-mêmes. Et tout ça, ça joue de manière importante, parce que la fugue, elle tombe pas dans un ciel serein. Elle vient dans un moment de la vie de cette jeune. Et la prostitution, finalement, elle vient aussi à ce moment-là, et les agresseurs, que sont les proxénètes, vont les repérer. Les clients, bien sûr, vont en profiter et on va être en quelque chose de cet ordre-là. Et je crois que c'est important de bien dire que dans 100% des cas, les filles, et s'il s'agit de garçons, ce sera la même chose, ont aussi été victimes avant d'entrer dans la prostitution. Et la prostitution en elle-même est bien sûr une violence sexuelle dramatique.
Où elles continuent d'être victimes, bien sûr, c'est pas parce qu'elles se prostituent qu'elles le choisissent.
Alors, se prostituent, vous allez me permettre de vous corriger, pardon, monsieur, je suis désolée. Elles sont prostituées.
Bien sûr.
Et moi, je préfère qu'on dise elles sont, c'est-à-dire c'est la forme passive, parce que les agresseurs les cherchent. Ça tombe pas tout seul, tout ça.
Tout à fait. Non, mais c'est tout à fait juste.
Il y a aussi. Elles sont violées et pas elles se sont faites violer, c'est la même histoire. Il faut qu'on soit bien dans un vocabulaire qui dise le réel. Le réel de cette violence extrême qu'est la prostitution.
Il y a donc toutes ces failles qui entraînent cela. Il y a aussi le contexte, Nadège Hubert, dans votre livre, vous mentionnez l'influence de la pornographie en ligne aussi, les réseaux sociaux, le harcèlement en ligne qui brise peut-être encore plus ces jeunes filles. Donc tout ce contexte, est-ce que vous pensez que ce sont aussi des facteurs peut-être ?
Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, 64% de la prostitution se fait en ligne. Donc, c'est énorme. Et donc, les mineurs, effectivement, tous les réseaux sociaux, ils sont dessus. Aujourd'hui, un proxénète ne va pas forcément rechercher sa proie dans la rue, mais il le peut encore, hein. Il va effectivement devant les foyers de l'aide sociale à l'enfance, parce que ça, c'est très facile pour lui, pour eux. Ils savent très bien qu'ils ne sont pas protégés, mais ils vont aussi sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Snapchat, TikTok, Instagram. Ils vont les repérer, parce que sur ces réseaux, ces jeunes filles vont aussi se livrer. Elles sont adolescentes, elles veulent aussi avoir des contacts avec d'autres jeunes. Ils ont une autre façon, un autre rapport à Internet et aux autres et à leur corps à cause de la pornographie qui est très facile d'accès pour ces jeunes. Parfois, à 11, 10 ans, ils ont accès à de la pornographie, filles comme garçons. Donc, c'est assez choquant pour eux. Leur cerveau n'est pas adapté pour ça. C'est de la violence et ils ont un rapport au corps qui est complètement biaisé. Donc, ils utilisent encore une fois tous ces réseaux et après, il y a tout ce qu'il y a du revenge porn, on appelle ça comme ça, donc ils filment une scène de viol, ils vont se servir de cette vidéo pour soumettre ces jeunes victimes et qu'elle pratique des fellations ou autre chose, donc elle sera encore violée par d'autres jeunes, et elle va arriver à la prostitution. Elle va tomber comme ça dans la prostitution parce qu'elle sera entraînée et qu'on est toujours dans ce rapport entre les filles et les garçons et entre les femmes et les hommes, et elles viendront plus tard grossir encore les chiffres des violences faites aux femmes, parce qu'en fait on est dans un continuum de violences. C'est-à-dire qu'au départ vous avez toutes les violences au sein de la famille intrafamiliale ou alors famille proche ou un peu extérieure, et ça va continuer, et à l'adolescence, en plus avec les réseaux, ça va être accéléré, et ça va continuer jusqu'à leur vie d'adulte. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, les réseaux et Internet ont un rôle important, et c'est pour ça qu'il faudrait vraiment s'en préoccuper.
Oui, et d'ailleurs, on imagine souvent que cela concernerait que des familles pauvres en détresse, mais vous le dites dans votre livre, Nadège Hubert, il y a aussi il y a tous les profils, autant urbains que ruraux. Enfin, donc ça concerne beaucoup plus de personnes qu'on pourrait penser.
Oui, parce que Internet est dans tous les foyers. Les violences intrafamiliales, c'est pas une question d'être riche ou pauvre. Ça, il faut vraiment s'enlever ça de la tête, parce que là, dans ce cas-là, on va se tromper. Si on se dit que ce n'est qu'à cause d'une condition sociale, et que c'est la condition que c'est une conséquence due à la pauvreté, c'est complètement faux. Alors effectivement, la pauvreté peut amener à certaines choses, mais dans ces cas-là, on sait très bien que ce sont les violences au départ qui ne sont pas repérées qui causent cette augmentation des victimes, en plus de plus en plus jeunes, qui tombent dans ces réseaux de prostitution. Et c'est terrible, surtout à l'âge-là, elles sont en pleine construction. Donc oui, ce n'est pas une question de classe sociale, c'est sur tout le territoire. Internet, même dans un village, c'est-à-dire qu'une jeune fille peut être repérée, elle peut fuguer par la suite.
Oui, tout à fait. Ernestine René, je me tourne vers vous. Est-ce qu'en Seine-Saint-Denis, en général, la prostitution d'adultes touche beaucoup de populations étrangères? Est-ce que c'est aussi le cas pour les mineurs?
Alors, dans ce qui est repéré, parce qu'il faut toujours être prudent,
bien sûr.
Dans ce qui est repéré, non, il ne s'agit pas de personnes étrangères. Pour la prostitution adulte, oui, c'est bien sûr beaucoup de dames, 80% donc de femmes étrangères. Pour ce qui est de la prostitution des jeunes, c'est à peu près dans tous les milieux, et bien sûr pas que chez les dames, chez les filles d'origine étrangère. Oui, oui. C'est une évidence. Peut-être que je oui. partage tout à fait ce qui vient d'être dit par Nadège. Je trouve que c'est tout à fait ce que je pense, ça correspond complètement. Je voulais juste ajouter que la prostitution a des conséquences dramatiques sur la vie. Par exemple, dans l'étude que nous avions faite, parmi les filles qui étaient prostituées, il y en avait 6 sur 10 qui avaient été hospitalisées et 1 sur 4 qui avaient fait une tentative de suicide. C'est-à-dire que ça a des conséquences dramatiques sur les enfants, et ce qui vient d'être dit sur le fait que ce soit des personnes, c'est des enfants, donc en construction, évidemment, le fait que ces violences ont des conséquences si graves, déscolarisation, fugue, conséquences sur la santé, c'est vraiment à prendre en compte. Et on peut se dire que la lettre de l'Observatoire national est importante parce qu'elle est bien reprise par les médias, par vous et plein d'autres, ce qui va permettre peut-être que l'opinion publique française se mobilise pour dire qu'il faut que les proxénètes soient bien davantage pénalisés, que les clients soient davantage verbalisés. Et pour ce qui concerne la prostitution des mineurs, je voudrais rappeler que la prostitution des mineurs est interdite dans notre pays depuis 2002. Donc,
c'est un crime.
Ça augmente. Mais quand même, il y a quelque chose à faire.
Donc, c'est un crime, on peut le rappeler.
C'est un crime. Et notamment lorsqu'il s'agit de pénétration sexuelle, aujourd'hui, pour les mineurs de 15 ans, c'est le viol, c'est considéré comme un viol. Et c'est très important. Donc, il faut qu'on arrive à ce que les forces de sécurité, la justice s'en emparent bien davantage, parce que le plus souvent, malheureusement, quand les jeunes filles révèlent des violences sexuelles subies, à la justice, à la police, à la gendarmerie, c'est insuffisamment pris en compte et insuffisamment pénalisé pour elles. Et je vais vous citer une citation qui, moi, me marque beaucoup. C'était dans un dossier de juge des enfants. Et la fille disait, quand vous étiez en train de lécher ma chatte, ça ne vous dérangeait pas. Et lorsque je me prostitue, là, ça vous dérange. C'est-à-dire que d'abord, elle a été victime de violences sexuelles graves, en l'occurrence d'actes bucco-génitales, et aujourd'hui, c'est considéré comme un crime. Donc, lorsqu'il s'agissait d'un crime, ça ne vous a pas dérangé. Lorsque je l'ai révélé, il ne s'est rien passé. Et c'est ça qui est vraiment à dénoncer. Et il faut espérer qu'aujourd'hui, avec cette mobilisation qui a l'air de se mettre en place en France, on arrive à ce que les forces de sécurité soient davantage mobilisées, ce qui supposerait qu'on ait davantage, bien sûr, de forces de sécurité dédiées aux violences faites aux femmes et aux enfants d'une manière plus globale.
Il y a aussi la prévention. Comment éviter qu'elle tombe pour anticiper au maximum cela? Est-ce qu'il y a une part d'éducation aussi à apporter, Ernestine René?
La première chose, il y a sans doute une éducation, mais la première chose, c'est de permettre aux enfants de révéler les violences qu'elles subissent et que les enfants soient crus. Ça, c'est la première chose. Et donc, à l'école, dans tous les lieux que les enfants fréquentent, eh bien, on leur permet de révéler. Moi, j'étais psychologue de l'éducation. Je faisais des séances qui s'appelaient « Mon corps, c'est mon corps ». Et dans chaque classe, au moins un enfant, toujours, révélait des violences sexuelles subies. Toujours. Donc, c'est dire que les enfants, lorsqu'on leur en donne la possibilité, sont prêts à révéler. Après, il faut bien sûr les protéger. C'est la deuxième étape. Donc, ça, c'est la première chose. Et puis, évidemment, ce qu'a dit d'ailleurs tout à l'instant Nadège également, je me permets de vous appeler Nadège, c'est que les séances, bien sûr, sur l'égalité filles-garçons, les violences, parler des violences en tant que telles, c'est quelque chose d'important qu'on pourrait imaginer, évidemment, dans les classes de collège. En Seine-Saint-Denis, nous faisons des séances, nous avons 4000 jeunes qui participent tous les ans à des séances en profondeur, pas juste 3 minutes, sur ces questions de violence. Parler de la violence, c'est très important et les jeunes en parlent volontiers. Soit la violence subie directement, soit la violence conjugale, mais de toute façon, ils sont co-victimes de ces violences et ils en souffrent. Ils le disent magnifiquement. Et donc, travailler avec les garçons et les filles sur ces questions, très important, sur les relations amoureuses, si on veut qu'à l'âge adulte,
Et puis, il y a la question des moyens, mais juste en deux mots, Nadège Hubert, est-ce que les moyens sont là, vous le voyez sur le terrain ou pas?
Alors, les moyens, c'est-à-dire qu'il y a au niveau de la police et de la justice. On remarque qu'il y a une grande disparité selon les départements. Vous ne serez pas reçu de la même façon selon le commissariat dans lequel vous allez porter plainte. Puis après, vous avez les services spécialisés de la police. Là, c'est autre chose. Par exemple, vous avez la répression du proxénétisme, que nous avons d'ailleurs intégré durant 5 jours lors d'une immersion à Marseille. Eux, ils sont spécialisés. Ils luttent contre le proxénétisme, adultes comme mineurs. D'ailleurs, ils ont remarqué depuis 2023-2024 que les dossiers qui concernent les affaires qui concernaient les mineurs étaient supérieurs à ceux des majeurs. Oui. C'est très récent, oui. Et on le constate aussi dans cette étude qu'il y a des proxénètes mineurs de plus en plus. Oui. Il y a aussi les moyens de la justice. C'est-à-dire que la justice...
En deux mots, parce que nous allons devoir conclure ici.
Oui. Donc, la justice, on voit qu'il y a une grande disparité sur les territoires. Tous n'ont pas de référent proxénétisme. Tous ne sont pas vraiment sensibilisés à ces questions. Et d'accord. Il y a aussi une question, par exemple, lors des clients, quand ils sont jugés, oui. Où la question de la minorité de moins de 15 ans est un vrai sujet, est un vrai problème.
Donc, Nadège Hubert, merci beaucoup. Je rappelle votre ouvrage « À cœur perdu ». Ernestine René, merci beaucoup, responsable de l'Observatoire des violences envers les femmes en Seine-Saint-Denis, pour parler de la recrudescence de la prostitution.